Donc le titre de ma présentation, enseigner le français aux élèves plurilingues, en classe ordinaire, démarche plurilingue et alternative. Je suis maîtresse de conférences en sciences du langage à l'INSPE, l'INSP, l'INSPE, nous on dit chez nous, à Marseille. Voilà, l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation, à Aix-Marseille Université, où j'interviens en didactique du français pour des futurs professeurs des écoles du premier degré, en didactique du français langue étrangère pour des enseignants qui enseignent le français dans le monde. Je suis co-responsable d'un master MEF FLE à distance. En didactique des langues aussi. Et vous allez voir peut-être à travers ma présentation pour quelles raisons j'interviens et je croise un peu mes approches dans toutes ces didactiques. Je m'intéresse particulièrement donc à la didactique des langues et du plurilinguisme, notamment en classe ordinaire, qui a été le cœur de mon travail pour mon travail doctoral. Langue maternelle, de scolarisation étrangère et seconde, et j'essaie d'établir des ponts entre tous ces domaines. Ma discipline de prédilection aussi est la sociolinguistique, parce que j'estime que c'est important de connaître le contexte dans lequel on enseigne, même si ça va de soi en tant qu'enseignant, mais en tant que chercheur, de connaître les profils linguistiques, culturels, des classes dans lesquelles on mène des recherches. Donc je regarde un peu au niveau des processus d'enseignement et d'appropriation des langues à différents niveaux, dans la formation linguistique pour des adultes migrants en français langue étrangère, pour des élèves allophones en UPE2A et plus, au lycée professionnel plus récemment, pour des élèves que j'ai appelés alloglottes nés en France, donc en classe ordinaire, des élèves plurilingues et des élèves allophones, et notamment en éducation prioritaire. Alors j'essaie de voir justement quels sont les intérêts, mais également les limites de l'inclusion des langues premières et des cultures premières de ces élèves en classe de langue. Et comme je travaille à l'INSPE, forcément je m'intéresse à la professionnalisation des enseignants de langue, quelle qu'elle soit, français, anglais ou même arabe. En guise d'introduction, je vais revenir sur ce plurilinguisme en classe ordinaire, qui est une question socialement vive en recherche, mais à la fois en formation. On voit depuis quelques années des colloques, des congrès, des journées d'études sur cette thématique du plurilinguisme qui revient, mais qui n'est pas nouvelle en soi, hein, puisque si on regarde le contexte de notre pays, depuis les années 70, on a commencé à s'interroger sur cette question. Et au niveau de la recherche en particulier, on voit très bien dans une revue de didactique qui est portée notamment sur des objets d'études en didactique du français langue maternelle, donc la revue Repère, qui accorde ses récents numéros à cette question des élèves plurilingues en classe ordinaire, outils et questions pour la didactique du français, où les collègues contributeurs reviennent sur cette question, les défis que ça suppose pour les enseignants. Un autre numéro sur les objets d'enseignement et sujets apprenants à l'école maternelle, la recherche en didactique du français aux défis de la diversité. Alors, cette diversité linguistique et culturelle est toujours présentée comme un défi. Hein ? On en parlera par la suite. Alors, du côté de la formation, quand on regarde les programmes, on voit bien qu'il y a une évolution, hein, une prise de conscience institutionnelle sur la nécessité de prendre en compte le plurilinguisme. Alors pour le cycle 1, là, cet été, on a vu paraître le guide pour l'éveil à la diversité linguistique en maternelle. On a juste oublié le terme culturel, c'est un peu dommage, mais on voit que ce terme apparaît dans le guide. Hein. On parle des enjeux de cet éveil. Et je cite ce guide, « Toute langue favorise le développement langagier et l'ouverture culturelle des enfants », chose assez intéressante, mais qui était déjà là en maternelle, n'est-ce pas ? Éveiller les élèves aux langues dès leur plus jeune âge, c'est permettre à tous les enfants d'avoir une ouverture sur les autres et le monde, ça c'est intéressant, et de développer une sensibilité à une grande diversité de sons, de susciter chez eux le goût pour les langues et le plaisir de jouer avec les mots, de reconnaître, hein, il y a une forme de reconnaissance de toutes les langues, et partager les langues du groupe. Là, il y a quand même une avancée assez indéniable à travers des projets créatifs et innovants. Et l'élément important, c'est qu'on va également reconnaître, valoriser les enfants qui grandissent avec plusieurs langues, de voir leur langue et appartenance culturelle accueillie au sein de l'école et susceptible d'être mobilisée au quotidien. Voilà. On accueille, on valorise. Au niveau institutionnel, on ne dit pas comment prendre en compte ces langues pour l'enseignement des langues, mais ça reste à la discrétion des enseignants, bien évidemment. Pour les parents, d'être soutenus dans leur choix de transmission de la ou des langues familiales, ça encore c'est intéressant, puisqu'on ne parle plus de langue d'origine. Hein, on voit très bien qu'avec les phénomènes de plurimobilité, on voit très bien que le répertoire langagier des élèves plurilingues est riche, hein, et qu'il ne se limite pas à la langue première. D'être invité à venir présenter, s'ils le désirent, leur langue au sein des écoles. Donc on voit quand même qu'au niveau institutionnel, on avance dans cette question du plurilinguisme. Au niveau des cycles 2 et 3, on parle explicitement d'approche plurielle des langues et des cultures. Le seul bémol, c'est qu'on considère cette approche plurielle des langues et des cultures entre langues vivantes étrangères. Là, il n'est pas question d'inclure les langues premières des élèves. C'est le seul bémol. Si on regarde spécifiquement la discipline qui nous intéresse, le français, en étude de la langue, pour le cycle 3, hein, les programmes de 2020 invitent à comparer le système linguistique du français avec celui de la langue vivante étudiée en classe. Donc là, quand même, aussi un progrès. Les langues des élèves ne sont pas là explicitement nommées, mais l'enseignant qui travaille déjà dans une approche plurielle des langues peut introduire justement ces langues de la classe. Donc on assiste quand même à un premier décloisonnement entre langue de scolarisation et langue vivante étrangère, et qui est assez intéressant. On demande aussi aux enseignants de solliciter régulièrement les autres langues pratiquées par les élèves. Voilà. Donc, autre langue, c'est un fourre-tout et ça peut justement inclure les langues premières des élèves. Pour des observations et des comparaisons avec le français. Donc, on a adopté cette perspective d'analyse contrastive, d'approche comparative entre les langues. Et là encore, on avance au niveau institutionnel. Donc, on assiste aussi à un second décloisonnement entre langue de l'école, langue de scolarisation, et langue vivante étrangère, et langue des élèves. Pour les élèves allophones en classe ordinaire, depuis 2016, on a un document qui invite les enseignants à s'appuyer sur les langues des élèves pour développer des pratiques de différenciation pédagogique en leur faveur. Les langues des élèves sont présentées comme un levier pour l'apprentissage du français. Donc, de ce paradigme d'obstacles, de difficultés, on est passé à un paradigme de facilité, réussite, atout. Le plurilinguisme des élèves est présenté, et en l'occurrence des élèves allophones, est présenté comme un atout pour l'apprentissage du français. Donc, si on doit un peu synthétiser toute cette histoire... Hein, je me suis appuyée, j'ai un peu détourné cet outil qui a été produit par Maria Cavalli et ses collègues. Finalement, quand on regarde les programmes, les avancées indéniables que je viens d'analyser, on peut voir qu'on peut assister, on peut mettre en place en fait un décloisonnement des langues. Hein. On assiste progressivement à l'idée d'un syncrétisme didactique entre langue vivante étrangère, entre langue de scolarisation d'une part, et d'autre part, entre langue familiale et langue scolaire. J'en viens maintenant aux intérêts d'une didactique du plurilinguisme en classe de français et des obstacles aussi. Alors plutôt, pas une didactique du plurilinguisme, mais plutôt l'inclusion des langues et des cultures premières des élèves. Alors petit point terminologique, puisqu'on parle tous de plurilinguisme, on a très bien vu, en didactique des langues, on n'est pas sur le même plurilinguisme qu'en didactique du français. Alors, de façon générale, en didactique des langues et en sciences du langage, on a un peu mis de côté ce concept de bilinguisme parce qu'il véhiculait des représentations erronées sur les compétences des élèves. Donc, on a mis de côté ce terme et on a plutôt adopté, avec les travaux des collègues et du Conseil de l'Europe, le terme de plurilinguisme. Et on attache davantage le terme de multilinguisme pour parler d'une société ou d'une classe, tout simplement. Donc, c'est des usages, en fait, qu'on a. Alors, pourquoi ? Pour quelles raisons ? Principalement, c'est parce que dans les années 70, quand la didactique du français commençait à émerger, et dans d'autres didactiques aussi, on avait l'impression qu'un individu bilingue, c'était celui qui maîtrisait parfaitement deux langues. On avait cette idée, cette image qui perdure quand même. En psycholinguistique, de nos jours, les collègues continuent à parler de bilinguisme, mais on parle de la même chose, en fait, d'une capacité à employer au moins deux langues au quotidien. Donc, on est allé regarder du côté de la sociolinguistique. C'est plutôt la sociolinguistique qui est allée sur le terrain. Et qui finalement a vu que les individus plurilingues, quoi, bilingues, étaient des individus qui étaient capables de passer d'une langue à l'autre, qui empruntaient certains mots d'une langue à l'autre, etc. Donc on avait une idée un peu plus souple, en fait, de cet individu. Et la didactique des langues s'est appuyée sur ces recherches pour asseoir, en fait, son assise théorique concernant le plurilinguisme. Ce qu'on a vu aussi, c'est cette relation identitaire aux langues qui nous a été menée par la sociolinguistique, puisqu'on a une citation assez célèbre. « Ma langue, c'est l'espagnol, mais je ne la parle pas. » Donc on a vu qu'il y a des décalages aussi entre des pratiques déclarées des pratiques effectives, puisque certains individus considèrent qu'il s'agit de leur langue, mais pour autant, il n'y a pas effectivement de pratiques langagières qu'on peut raccrocher. Donc, toutes ces choses-là, grâce à la sociolinguistique, la didactique des langues a assoupli, on va dire, ce concept de plurilinguisme. Et a vraiment mis de côté ce concept de bilinguisme. Donc, ce concept, comme dit Verdeillan, Bourgade, il comporte une dimension linguistique. On est en plein dans le contact des langues. Une dimension sociolinguistique, puisque le rôle des contextes va être prégnant. Et une dimension psycholinguistique. Les raisons de choisir telle ou telle langue, parce que je suis énervée, je dois parler dans ma langue première, sinon mes petits ne vont pas m'écouter. Et voilà, donc toutes ces raisons-là. Donc on a un peu récupéré tous ces éléments théoriques en didactique des langues. Et de la même façon, j'ai beaucoup parlé de la sociolinguistique, mais en didactique des langues, on a vu que finalement, l'enseignant de langue qui enseigne, par exemple, l'anglais, avait recours à la langue de scolarisation, le français, pour revenir sur un point lexical, un point de grammaire, etc. Donc, finalement, on voit très bien que la langue première n'est jamais évacuée. Donc, on a un peu assoupli ce concept et on s'est éloigné de l'image d'un locuteur natif, idéal, qui maîtrise au moins deux langues, etc. Donc on est plutôt sur la capacité d'un individu d'employer à bon escient plusieurs variétés linguistiques, donc à entendre au sens de langue, et surtout cette compétence plurilingue et pluriculturelle ou interculturelle qui est venue depuis, qui existait déjà, mais qui a été officialisée par Daniel Coste, Daniel Moore et Geneviève Zarat en 2009, avec les travaux du Conseil de l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que on est toujours dans l'idée de maîtrise, mais à des degrés divers. Et c'est ce qui se passe réellement en classe de langue, on en est là. Hein, plusieurs langues, et à des degrés divers, l'expérience de plusieurs cultures. Voilà, au moins deux langues. Donc on a assoupli le concept et on voit très bien qu'on se détache quand on reçoit un élève allophone en UPE 2A et en classe ordinaire de cette vision d'un élève, par exemple, qui arrive au CM2, par exemple, qui maîtrisait déjà sa langue à tous les niveaux et qui avait déjà toutes les compétences linguistiques. Donc ça nous incite, nous, en tant qu'enseignants, à mieux connaître nos élèves, leur profil langagier, et à mieux sonder leur biographie langagière pour voir où ils en sont exactement. Donc, comme je disais, ce répertoire langagier plurilingue, cette compétence plurielle plurilingue est composite, elle est diverse, elle est plurielle, elle peut être à un niveau très avancé, à un niveau débutant, et c'est à nous, en fait, de sonder ce capital linguistique et culturel de l'élève. Et on devrait arriver à ce type de développement, ouais, voilà, c'est idéal, hein, n'est-ce pas, de développement de compétences plurilingues et pluriculturelles, pardon, chez nos élèves. Voilà. Plutôt que de juxtaposer, d'avoir l'idée d'une juxtaposition de ces compétences linguistiques et culturelles, arriver à croiser, hein, dans une perspective interculturelle, à tisser les compétences linguistiques et culturelles de nos élèves. Pour encore déplier cette histoire de plurilinguisme, d'un grand chapeau, mais qui finalement soulève plusieurs catégories, moi je me suis intéressée particulièrement aux élèves alloglottes nés en France. Alors je les ai appelés comme ça parce que c'était un petit coup militant, hein. Autant être honnête. Et bon, j'étais bien contente de qu'on prenne en compte les élèves allophones en UPE 2A et en classe ordinaire, mais je disais attention, en classe ordinaire on a aussi des élèves qui sont nés là, hein, et dont on soupçonne parfois le plurilinguisme, ou parfois quand on voit qu'ils ont des difficultés on arrive à dire ben, c'est parce qu'ils ne parlent pas français à la maison, etc. Donc moi-même, ayant été confrontée à ce type de problème quand j'étais enseignante dans le premier degré, et au moment où je dois transmettre mon patrimoine linguistique à ma fille, je me dis, bon, alors il vaudrait mieux que je reprenne mes études et que je comprenne un peu tout ce qui se passe au niveau du plurilinguisme, parce que voilà, finalement, on a des représentations qui sont parfois un peu erronées. Donc, ce sont des élèves qui n'ont pas vécu la migration, hein, à l'inverse des élèves allophones, mais qui peuvent être exposés de la même façon à une autre langue que le français, et notamment ces élèves alloglottes qu'on accueille en maternelle et qui peuvent parfois s'enfermer dans un mutisme puisqu'ils ne comprennent pas, en fait, cet écart entre langue familiale et langue scolaire. Donc, dans cette enquête que j'ai menée, finalement, on voit que même à un niveau avancé, on a encore des élèves qui continuent à déclarer. Alors, ces déclarations, elles étaient du fait de l'enseignant, mais du fait des familles et du fait des élèves. C'est-à-dire que j'ai enquêté auprès des trois pôles pour voir un peu comment se diversifier ces pratiques langagières familiales. Donc on voit que le maintien de la langue est là, même pour des élèves qui sont nés en France et qui ont l'âge de 10-11 ans. Alors pour les élèves auxquels je me suis intéressée, qui étaient notamment en éducation prioritaire, C'était des élèves qui parlaient l'arabe, le kabyle compris. Le comorien, c'est un vilain mot, puisqu'on a plusieurs langues à l'intérieur du comorien. L'espagnol et le gitan, puisque certains élèves disaient « je parle gitan et pas espagnol ». Donc, parmi ces élèves nés en France, plusieurs déclarent une ou deux langues avec le français, hein, de façon concomitante. Quatre du CP et un élève du CM2, ça c'est surprenant, déclarent uniquement une autre langue à la maison. Voilà. Donc, le mythe que la langue, l'abandon de la langue et que la langue se perd, voilà, finalement, bon, alors c'est un cas exceptionnel, vous allez me dire. J'ai vu également qu'il y avait quand même une pratique chez ces élèves qui était entre un français qui pénétrait par la voie des médias, hein, surtout, mais dans les pratiques langagières familiales, dans les échanges avec les parents parlaient dans une autre langue, les élèves, les enfants plutôt répondaient en français ou parfois dans l'autre langue. Alors, pourquoi revenir sur cette catégorie du plurilinguisme? C'est que finalement, comme le dit Michel Verdeillan, c'est qu'on a un riche éventail de situations linguistiques pour lesquelles on n'a pas les mêmes moyens, il faut se le dire, pour lesquelles les moyens institutionnels, pédagogiques, etc., pour lesquels on n'a pas les mêmes représentations sociales également. Donc, pour le cas qui m'a occupée, notamment des élèves dont les langues sont en lien avec des migrations, donc les élèves allophones en classe ordinaire et les élèves alloglottes, Michel Verdeillan souligne des différences entre les pratiques langagières de ces élèves-là et des représentations sociales qui leur sont attachées. Donc, nous, l'intérêt de notre travail, dans cette distinction qu'on opère, pour nous, ce sont des élèves plurilingues, évidemment, mais en classe ordinaire, on va essayer de regarder quelles sont déjà les compétences de ces élèves, les compétences linguistiques, le répertoire langagier, en l'occurrence, quels sont les besoins de ces élèves aussi, puisque, en fait, c'est ce que fait l'enseignant. Quand il est face à sa classe, il va regarder de façon individuelle quels sont les besoins de chaque élève. Hein. Et donc, l'objectif pour nous, c'est de débroussailler cette histoire de plurilinguisme pour voir quel dispositif didactique on peut proposer, quelles interventions didactiques ajustées on peut proposer à ces élèves, et notamment en classe ordinaire. Donc, on essaie justement encore davantage par rapport à ce qui nous est permis par l'institution et par la recherche, de décloisonner en fait cette histoire de didactique du plurilinguisme où on va regarder les apports non seulement des langues premières et cultures des élèves, mais également des apports des langues étrangères, hein, qui sont enseignées à l'école, accessoirement, parce qu'on le fait moins, des langues régionales, hein, puisque nous, pour notre cas, c'est plutôt l'anglais, hein, qui est enseigné. Et enfin, les langues de la migration qui sont enseignées dans les dispositifs enseignement internationaux de langues étrangères, la nouvelle dénomination qui a fait beaucoup de bruit d'ailleurs, les anciens ELCO. Donc, on va essayer de voir un peu toutes ces pratiques pédagogiques, quelles sont les généricités, les spécificités de chaque didactique d'intervention pour voir comment mieux accueillir l'élève plurilingue en classe de langue et en classe de français en particulier et en classe ordinaire avec un enseignant qui n'a pas la formation adéquate. Disons les choses telles qu'elles sont. Suivant les INSPE, on a des enseignants-chercheurs qui ont eu à travailler ces thématiques et parfois non, suivant les contextes aussi, je pense à Strasbourg, on est plus à même de traiter de ces questions-là, mais dans certains INSPE, voilà, cette question du plurilinguisme, elle commence à arriver, mais pas suffisamment. Donc là, c'était ce dont je parlais à propos des représentations diverses. Et donc, on voit très bien que dans la première catégorie, on n'est pas dans le même plurilinguisme que dans la dernière catégorie, par exemple. Voilà. On va considérer un élève plurilingue suivant le contexte dans lequel on est. Une étude de Véronique Nantes et Cyril Trimaille a montré que l'élève était considéré plurilingue en fonction des langues parlées en famille. Alors, pour les langues de l'immigration, elles étaient peu valorisées, elles faisaient parfois l'objet d'une certaine dévalorisation, principalement les langues du Maghreb, le turc, et des langues d'Afrique subsaharienne. Mais aussi des langues de migration récentes, comme le bulgare, le gitan et le roumain. Des langues peu ou pas enseignées, mais n'étant pas l'objet de représentations particulières, comme le néerlandais, le portugais, etc. Des langues dites prestigieuses, comme l'allemand, l'espagnol, et dans le contexte grenoblois, l'italien. Alors, il faut prendre cette étude avec beaucoup de pincettes et de vigilance, hein, puisque ça dépend des contextes dans lesquels on est, évidemment. Il faut aussi creuser cette question des représentations dites dévalorisantes à l'endroit des langues de la migration, puisque quand j'ai eu à mener mon travail doctoral, dans le discours des enseignants, c'est pas tant la langue en elle-même, c'est plutôt les pratiques langagières de l'élève dans cette langue-là. Et c'est plutôt les compétences qu'il développe dans cette langue. Il y avait aussi la question de la norme aussi, voilà. Une sous-estime peut-être des dialectes. J'ai entendu, il parle pas, il écrit pas en arabe, et pourtant on sait très bien qu'en dialecte algérien, marocain, etc., on peut développer des compétences linguistiques. Donc c'est pas, au fond, c'est pas négatif, hein, mais ça peut provoquer justement des blocages au niveau de la mise en place d'approches plurielles pour ces enseignants-là. Ça peut avoir des effets, alors je parle d'effets potentiels, hein, puisque voilà, même si des représentations sociales circulent au niveau de la société, au niveau de l'école, ces représentations peuvent avoir des effets ou pas, hein, sur le rapport aux langues des apprenants. Alors, Daniel Coste a établi une certaine forme de catégorisation de ces plurilinguismes qui peuvent être reconnus, ignorés, revendiqués, cachés, honteux, assurés, insécures et qui peuvent avoir des impacts sur le rapport aux langues des individus et des apprenants. Les risques aussi cognitifs et identitaires de ces représentations sur le rapport aux langues des apprenants qui ont été montrés par la psycholinguistique, par la didactique des langues et autres. Et cette non prise en compte des langues de la migration à l'école qui peut poser problème. En formation initiale et continue d'ailleurs, je travaille avec un outil qui est la biographie langagière, où je demande aux futurs enseignants et aux enseignants de parler d'eux-mêmes, tout simplement, de leur rapport aux langues depuis leur enfance, des compétences linguistiques et culturelles qu'ils ont développées, pour amener à un travail de réflexivité sur leur propre métier. Hein. Et donc là, c'est le cas d'une étudiante qui est... voilà, qui a des compétences avérées en français et qui est aux portes de passer le concours et qui a eu le concours. Et donc, on voit très bien, alors c'est une étudiante, qui était élève allophone. Donc, je leur demande de revenir sur leur parcours. Et elle dit qu'elle constate, en fait, hein, qu'elle reste assez discrète dans les cours de français et dans les matières qui utilisent le français, donc dans le français langue de scolarisation. Et dans son esprit, elle a toujours eu un retard en français. Donc cette histoire d'insécurité linguistique où pour elle, voilà, elle n'était pas au même niveau que ses camarades. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'elle dit que cela m'impacte encore en tant qu'étudiante. Alors que je vous disais qu'elle était assez brillante. Donc elle avait du mal à avoir une image fidèle d'elle-même à la réalité, quoi, fidèle à la réalité. En revanche, pour les langues, elle n'avait pas cette insécurité, et c'est ce qu'on voit avec les élèves allophones, hein, en classe ordinaire. En français, c'est des élèves qui sont plutôt effacés, mais en anglais, comme ils sentent qu'ils sont au même niveau que les autres élèves, ils sont plus à l'aise, en fait. Donc cette histoire d'insécurité linguistique est assez intéressante à creuser avec ces élèves. Un second exemple où il a été question de concevoir des livrets d'accueil pour des élèves allophones nouvellement arrivés en Grèce et en France. Et nous, on s'est calqué en bon marseillais sur la ville de Marseille. Et donc, ce livret d'accueil était accompagné d'un livret pédagogique pour travailler justement des compétences linguistiques en français, en incluant les langues et les cultures premières de ces élèves. Et avec ma collègue, on cherchait à savoir, en fait, quel est le rapport de ces enfants migrants et de migrants, puisque je vais vous présenter ces deux élèves. Il s'agit de Lou Jane, qui est allophone nouvellement arrivée, mais Kadir, qui est alloglotte né en France, mais qui se retrouve en UPE2A, puisqu'il a des soucis au niveau du français, notamment. Et donc, ces deux élèves, on a essayé de voir comment se présentait leur rapport aux langues et comment ce rapport aux langues pouvait refléter leur biographie langagière. Et aussi, on a regardé au niveau des compétences linguistiques. Est-ce que quand on a un rapport aux langues assez harmonieux, assuré, on peut avoir des compétences linguistiques assez bonne en français ou l'inverse. Donc on a projeté ce livret d'accueil qui a été le support d'interaction orale avec ses élèves. Et chez Lou Jane, alors Lou Jane, ses parents venaient d'Algérie et elle est née en Espagne, oui c'est ça. Alors déjà dans son discours, c'était clair. Elle a deux pays, elle dit « je viens d'Algérie, je viens d'Espagne, les deux, je suis arabe, moi je suis une arabe espagnole ». Voilà, c'était clair. Dans sa façon, puisqu'on leur a demandé aussi d'écrire leurs prénoms dans toutes les langues qu'ils connaissaient, elle présente donc son prénom en arabe, et on voit bien qu'il y a un ordre, en fait, qui va commencer de la droite pour l'arabe, et elle note « arabe », et ensuite le français et l'espagnol de l'autre côté. Et à l'oral, elle me dit ben, « finalement, ça s'écrit de la même façon, que ce soit en français ou en espagnol ». Donc une bribe de compétences métalinguistiques sur ces deux types de graphies. Elle voit que c'est la même chose. Rapidement, pour Kadir, dans son propos, il y a un mélange d'arabe, salam alaikum, des kebaché, débaché, du turc. Lui, en revanche, il ne sait pas, en fait, clairement. Et nous, on n'a pas su, clairement. Il a fallu qu'on s'entretienne avec l'enseignant pour savoir s'il venait de Turquie ou pas, parce qu'on n'arrivait pas. Dans son discours, c'était très ambigu. On ne sait pas s'il était né en France ou pas. Au niveau de leurs compétences linguistiques, je ne vais pas passer tous les exemples. Kadir, il est plutôt, donc on leur a proposé cet exemple, je m'appelle Léo, et toi comment tu t'appelles? Je vis en France, je suis français, j'habite à Marseille. Voilà, lui, il est clairement dans la répétition, je m'appelle Kadir, je vis en France, je suis française, bon, j'habite à Marseille, j'ai 8 ans, je suis en CE2. Elle, Lou Jane, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans son exemple, elle est plutôt dans la reformulation. Au niveau des compétences linguistiques qu'on a analysées, on voit que Lou Jane est toujours plus à l'aise en fait, dans ses compétences linguistiques en français par rapport à Kadir. Elle est allophone nouvellement arrivée, il est alloglotte né en France. Dans le choix des lexèmes, pareil, elle est au niveau de la variété, elle parle de descendre, glisser, et lui c'est toujours des verbes de haute fréquence, partir, aller, etc. Elle utilise le sens en contexte. Hein. Elle dit « garde », ça veut dire « c'est garde », »,« il garde hein. ». Alors que lui, il dit « c'est la dame de la garde » pour Notre-Dame de la garde. Ce qu'on voit et qui est intéressant, c'est que les deux utilisent des images. On se dit que c'est peut-être un outil sur lequel on peut s'appuyer en tant qu'enseignant, puisque quel que soit le rapport aux langues de ces deux élèves, quelles que soient leurs compétences linguistiques en français, finalement, les deux arrivent à utiliser des images. Donc peut-être qu'utiliser des images peut être un bon levier pour les élèves allophones en classe ordinaire. Alors, les intérêts des approches plurielles ou les questions, justement, de mettre en synergie au moins deux langues dans l'enseignement d'une langue cible a été largement démontré. Ce qu'on peut voir, c'est que ces approches plurielles, elles recouvrent plusieurs voies didactiques. Et ce qui prime, quand même, en tout cas dans le premier degré, et ce qu'on voit en classe de français, c'est plutôt l'éveil aux langues qui a été beaucoup utilisé en France. Hein. Mais l'intercompréhension entre langues parentes, on l'a surtout utilisé en classe de langue. Hein. Dans les projets, en tout cas, de recherche et dans les pratiques, on voit qu'on peut faire appel au roumain, à l'italien, au portugais pour travailler sur l'espagnol, par exemple. Alors, quels sont les intérêts par rapport à la biographie langagière, en formation initiale en l'occurrence, le discours de cette étudiante, c'est effectivement une réalité qui s'accompagne d'une prise de conscience sur la nécessité, en qualité de futur enseignant, de mettre en valeur le parcours linguistique des élèves en le verbalisant, en le partageant et en les accompagnant à dépasser les peurs, les conceptions erronées qui sont un frein à l'apprentissage. Donc, alors que dans sa biographie langagière, cette étudiante, au départ, c'était assez complexe, puisqu'elle disait « j'ai dû mettre de côté ma langue première », etc. Elle était vraiment dans une relation un peu conflictuelle entre le français qui lui a paru être imposé à ses parents et à la fin, elle arrive à dire ces choses-là. Donc on voit qu'en passant par l'inclusion de ces langues premières, de façon un peu détournée à travers cet outil, on arrive à ce type de discours et j'espère de futures pratiques. Un autre exemple dans le premier degré cette fois-ci, c'est le projet Sac d'histoire plurilingue qui a été mené au Canada et ailleurs et qu'on a répliqué avec une école en éducation prioritaire où la diversité, une école, c'était surtout le premier degré maternel, où la diversité linguistique et culturelle était prégnante, où le discours des enseignantes était « il faut inclure les langues et cultures premières des élèves ». Elle disait aux parents « non, continuez à parler vos langues ». Donc les parents ne comprenaient pas trop non plus, hein, c'était un peu compliqué. Et d'ailleurs, elles avaient mis en place ce projet qui n'avait pas fonctionné puisque les parents ne comprenaient pas. Et on s'est entretenu avec les parents, les familles, et ils disaient « mais on nous a toujours dit de ne pas parler notre langue ». Et maintenant, vous nous présentez, hein, je la fais un peu courte, vous nous présentez un projet où on va parler de nos langues. Voilà, ils étaient un peu sceptiques. Donc, dans ce projet, il était question de partir d'un album de littérature jeunesse assez classique, hein, comme La chenille qui fait des trous en maternelle, etc., de faire venir les parents pour traduire. Alors, on leur propose un support, une traduction. Ils traduisent, à partir de cette traduction qui a déjà été réalisée, cet album. Ensuite, l'enseignante va apposer des scratchs sur l'album qui est en français. Elle va le remettre à un élève. Dans ce sac, on a l'album qui est en français, traduit dans une autre langue, des marottes, des jeux et un glossaire. Donc, elle va mettre des mots qui ont été retenus pendant la séance qui a été réalisée en français et elle demande aux familles de traduire ces mots dans leur langue. Ce qui lui donne la possibilité, par la suite, de mettre en place une activité plurilingue sans entrer forcément dans l'utilisation des mots. Et donc, on est arrivé à certains résultats qui nous ont intéressés. C'est que cette activité-là, plurilingue, a permis à des élèves de grande section, c'est important de le souligner, de constater qu'il existe de la variation linguistique à l'intérieur d'une même langue. Là, il s'agit des langues des Comores. Et elle dit, bon, alors, finalement, ce mot-là, il a été traduit de plusieurs façons Qu'est-ce qui se passe? Elle interloque un peu les élèves et elle leur dit, bon, vos parents se sont peut-être trompés, hein, y a peut-être un souci au niveau de la traduction. Et un élève qui dit, parce qu'eux, ils sont d'une autre région. Donc ça, c'est assez intéressant en grande section à souligner. Un autre exemple, là, c'est plutôt du fait de l'enseignante, où elle va toucher du doigt l'histoire des intraduisibles. Donc tout ce qui est attrait à cette diversité linguistique inhérente à une culture et à une langue, elle va le toucher du doigt et elle va expliquer aux élèves que c'est normal qu'on n'arrive pas à traduire certains mots. Aussi, elle va rassurer les élèves sur le plurilinguisme de leurs parents, puisque ce sont pour la majorité des parents qui sont nés en France mais qui continuent à pratiquer leur langue et à la transmettre. Donc elle dit, bah, c'est un peu normal, hein, puisque vos parents sont nés ici, peut-être qu'ils ne connaissent pas tous les mots. Alors, on constate malheureusement des obstacles à ces approches et à l'inclusion des langues et des cultures premières des élèves. Jean-Claude Béacot, très récemment, a vu qu'il y avait une lente pénétration de ces approches dans les classes. Il mise sur un processus par le bas, par la formation initiale et continue, mais on voit très bien que c'est assez lent. Hein. Nathalie Auger, Brahim Azaoui, Catherine Mendonça-Dias et Fatima Chenin-Davin ont relevé certaines réticences hein, qui sont tout à fait légitimes. Hein, et Annabelle l'a dit, je ne peux pas corriger tout le monde, je ne peux pas, etc. En termes de temps, d'efficacité, ça pose beaucoup de questions. Surtout qu'on a constaté certaines limites quand on met en place des approches plurielles et quand on inclut les langues et cultures premières des élèves, ça peut ne pas fonctionner, et notamment pour des adolescents. Hein. Donc pour les petits, ça peut aller, puisqu'ils ne vont pas, ils sont assez innocents, ils ne vont pas contester, ils vont voilà, être émerveillés des pratiques langagières de leurs camarades, mais peut-être que chez des adolescents, c'est plus problématique. Et on le voit là, un élève qui interpelle sa camarade et qui lui dit « non, tu ne parles pas allemand », etc. Des résistances, des élèves qui ne peuvent pas ou n'arrivent pas à entrer dans la démarche plurilingue. C'est le cas de Kadir que je vous ai présenté tout à l'heure. Il pense qu'on va se moquer de lui, qu'on va rigoler, etc. Donc, je n'ai pas obtenu grand-chose de cet élève, hein, en toute sincérité. Donc, on voit très bien qu'on se heurte à certaines difficultés. Des problèmes d'exclusion, hein. Une maman qui dit ben, « nous, ce n'est pas pareil, hein. Nous, on est nés là-bas, mais eux, ces pauvres parents qui sont nés là, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes compétences linguistiques dans cette langue. » Donc voilà, ça pose aussi problème au niveau de cette pseudo-surexpertise de certains apprenants par rapport à d'autres, qu'il faut gérer, évidemment. Là, on le voit avec des adultes. Des problèmes aussi au niveau des langues qu'on va introduire. Innocemment, on va se dire, bon, tu parles arabe, alors on va mettre de l'arabe standard, mais ce n'est pas du tout la langue familiale, hein, en fait. Donc, nous, on veut partir des langues familiales qui sont parlées par les élèves et non pas écrites par les parents qui ont eu un parcours scolaire en arabe. Donc, là aussi, ça posait problème. C'est didactique, en fait, en toute honnêteté. Voilà, c'est l'objet de chercheurs, des réflexions de chercheurs, mais en classe, finalement, est-ce qu'on se pose cette question? On a face à nous un élève plurilingue en classe ordinaire et on va se dire « Ah, mais là, je vais faire de la didactique du français langue maternelle. Ah, mais là, je vais faire... » Non. Donc, on essaie, en fait, de piocher dans des outils, des ressources issues de diverses didactiques pour venir en aide à cet élève, hein. Et donc, c'était vraiment la question que se posait Franck Marchand à l'époque, même s'il ne parlait pas explicitement d'interdidacticité. Par la suite, Galisson, avec un titre assez percutant, parle de « Apologie de l'interdidacticité », où il réfléchit justement à des ponts qu'on pourrait mettre en place pour des élèves... Alors, à l'époque, on parlait d'élèves aussi étrangers, élèves migrants. On n'avait pas encore conscience que parmi nos élèves nés en France, ils pouvaient être plurilingues aussi. Et ils réfléchissaient justement à cette continuité entre didactique du français langue maternelle et didactique langue étrangère. Et que cette didactique du français langue seconde l'angle de scolarisation pourrait faire le pont entre ces deux didactiques et on pourrait s'appuyer sur ces démarches, ces ressources et ces outils issus de ces didactiques en classe ordinaire. Par la suite, c'est Fatima Chenin-Davin qui s'est posé la question en UPE2A. Hein, et elle dit que voilà, ce cloisonnement est dommageable pour les élèves allophones en particulier. Elle était dans une réflexion en fait, de transposition, on va dire, du concept de français langue seconde qui a été développé par Jean-Pierre Cuc, mais dans des situations francophones, pour l'amener en classe de FLE, FLS, en UPE2A, où elle enseignait, au collège, où elle s'est dit, ben, finalement, ce cloisonnement, il n'a pas lieu d'être. Et il n'est pas aidant, à la fois pour l'enseignant, ni pour l'élève. Donc elle parle de continuité didactique nécessaire pour que les didactiques du français puissent échanger leurs biens. Et ça revient aussi au travail de continuum didactique qui a été développé par Michel Verdéan, où plutôt que de cloisonner ces différents domaines, on va essayer de voir dans cette didactique du français langue seconde, langue de scolarisation, dans cette transversalité, qu'est-ce qu'on peut prendre de chaque didactique pour enseigner ? Pour enseigner notamment en UPE2A, mais on peut se poser cette même question en classe ordinaire. Je me suis moi-même posé cette question en 2018, où il était question donc des élèves plurilingues en classe ordinaire, alors avec un schéma idéal, mais j'espère qu'on y arrivera un jour, de puiser dans ces différentes didactiques des langues et du plurilinguisme pour mettre en place, ou pas, des approches plurilingues en classe ordinaire. Voilà. Donc je parlais aussi de syncrétisme didactique, puisque c'est ce qui se passe clairement pour l'enseignant, en fait. Il ne va pas se dire, bon, allez, je regarde de ce côté ou de l'autre. C'est plutôt nous, je pense, chercheurs, qui avons surtout cloisonné ces disciplines. C'est l'institution qui y contribue, mais on voit très bien qu'on assiste ces dernières années à un décloisonnement de ces domaines de la didactique du français. Très récemment, donc dans le numéro repère dont j'ai parlé en introduction, on parle justement en 2022 de mettre, de croiser en fait, ces divers domaines de français langue maternelle, langue seconde, langue étrangère et langue de scolarisation. Et de promouvoir, en fait, un dialogue entre ces diverses didactiques. Alors, les collègues parlent de didactique du français pluriel ou altéritaire, justement, où il est question de décloisonner ces domaines de la didactique du français. Et chose intéressante, c'est que comment opérationnaliser, en fait, hein, c'est ce qui nous occupe, en classe ordinaire, ces approches plurielles qui étaient initialement proposées en didactique des langues et où, finalement, en classe ordinaire, où on est censé enseigner la didactique du français langue maternelle, on voit très bien qu'on se heurte à certains obstacles et où on est obligé de passer par d'autres moyens, notamment issus de la didactique du français langue étrangère, langue seconde. Dans une recherche qu'on a menée, donc on a remis un peu sur la table le corpus de ma thèse avec Fatima Chenin-Davin, on a vu que finalement, cette interdidacticité pouvait être féconde, et notamment en didactique du lexique, pour favoriser la compréhension du vocabulaire des élèves en général, mais des élèves allophones et alloglottes en particulier. Dans cette recherche-là, on a vu que les enseignants avait recours à une approche plus multimodale et plurisémiotique de la langue, c'est-à-dire qu'au niveau du corps, au niveau de la gestuelle, de la distance, de la proximité avec les élèves, au niveau des supports matériels, du tableau, de l'affichage didactique, les enseignants avaient recours à cette approche multimodale et plurisémiotique pour venir en aide particulièrement aux élèves plurilingues. Elles avaient recours à la fois, on est dans une séance de décodage, mais il y avait aussi toute cette dimension de compréhension du vocabulaire. Elles avaient à la fois recours à des explications verbales issues du français langue maternelle, mais également des explications verbales issues des domaines du français langue étrangère et langue seconde. Mais évidemment, elles ne réalisaient pas et elles ne disaient pas, bon, alors, puisqu'elles n'étaient pas formées à ces didactiques, hein, elles sont en classe ordinaire, elles ne se disaient pas que ces gestes-là relevaient d'une certaine didactique. Mais c'était des stratégies qu'elles avaient développées pour venir en aide à ces élèves pour comprendre le vocabulaire. Donc, elles avaient donc une démarche plutôt plurielle. Elles avaient mis en place des gestes co-verbaux pour faciliter la compréhension et la verbalisation, pour faciliter l'accès à la polysémie des élèves et faciliter le métalangage. Je vais illustrer ça à partir de quelques exemples. C'est-à-dire qu'elles avaient à la fois, elles utilisaient des stratégies multimodales avec leur corps, leurs gestes, des mimiques faciales au niveau de la parole, de la prosodie. Elles insistaient sur des syllabes. Au niveau de l'affichage didactique, en même temps qu'elles parlaient, elles avaient recours à certaines illustrations, des flashcards qui avaient été manipulés, des images, etc. Donc, à un arsenal assez complet pour aider ces élèves en particulier. Et ce que l'on voit, c'est que ça, pour ces élèves-là, dans cet exemple, Kera est une élève allophone nouvellement arrivée, et Messaoud également. Et donc, on doit expliquer à Kera. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est cette inclusion de l'élève allophone, cette tolérance qu'elle a mis en place de toute la classe envers Kera. Et elle dit, donc, elle se préoccupe de cet élève hein, qui, la plupart du temps, ne parle pas, mais écoute beaucoup. Et donc, elle lui dit, est-ce que tu sais ce que c'est un trou ? Et donc, Kera ne répond pas, mais voilà, fait signe qu'elle ne sait pas ce que c'est. Donc, elle demande à la classe d'expliquer ce qu'est un trou. Et elle va reformuler, mais dans sa reformulation, elle va mimer. Donc, elle va désigner son genou et elle explique, voilà, quand tu fais un trou, etc. Et elle donne une autre possibilité de l'utilisation de ce terme en faisant un mime, un geste, et elle se met face à Kera. Et ce qui va aider Messaoud à verbaliser finalement. En voyant l'enseignante faire ce geste, il va dire aussi quand on fait les travaux. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. C'est que le mime va aider à la fois la gestuelle Kera et également Messaoud qui va pouvoir verbaliser. Il facilite aussi l'accès à la polysémie. Donc là, l'enseignante va demander ce que signifie filer. Donc elle dit fil. Alors fil, Mathis, on écoute bien. Là, je vous l'ai mis ce mot parce que nous, on connaît le fil, comme là-bas, la lettre F. Donc là, elle fait appel à l'affichage didactique. Quand on parle de la ficelle, ici, fil, ça vient de filer. Hein, voilà, c'est assez intéressant. Si je dis il file à toute allure, qu'est-ce que ça veut dire? Il file à toute allure, qu'est-ce que ça veut dire? Il file Mathis. Donc, elle donne la responsabilité à Mathis, le seul élève monolingue de la classe, d'ailleurs. Puisqu'il commence à apprendre l'anglais, il n'est pas monolingue, mais monolingue, il parle seulement français à la maison. Et donc, il explique ce que signifie cette expression. Et elle va demander aux élèves de mimer cette expression, hein, de l'illustrer. Alors, elle va demander à différents élèves, vas-y, file dehors, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise d'abord un geste co-verbal déictique. Elle a désigné l'image qui était accrochée au mur. Hein. Ensuite, elle va rappeler aux élèves la connaissance du mot fil. Donc, elle est toujours entre cette didactique du français langue maternelle, langue étrangère et langue seconde. Elle va convoquer les relations sémantiques, morphologiques de chaque mot. Après la définition donc, du mot par Matisse, elle va demander aux élèves d'effectuer eux-mêmes le mime pour s'assurer qu'ils ont bien compris. Donc en variant les possibilités aussi de mimer cette action, elle va jouer sur des modalités assez fines de la polysémie du verbe filer, au fond de la classe, fil de là, fil dehors, etc. Aussi, au niveau de la voix et de la parole, elle va utiliser une prosodie un peu plus lente ou plus rapide, justement, pour imager cette expression de filer à toute allure. J'en arrive, je suis désolée, je passe, c'est trop long. J'en arrive au geste professionnel d'adaptation linguistique. Dans cette recherche, les collègues ont vu que, en classe ordinaire, les enseignants faisait appel à des gestes professionnels pour aider particulièrement des élèves plurilingues. Et ce qu'elles ont analysé, c'est que finalement, ces enseignants avaient recours à un traitement phonologique spécifique de nouveaux sons qui a donné ensuite lieu à la découverte du graphème correspondant. Elles ont aussi mis en place des gestes professionnels que j'ai déjà un peu illustrés. La mise en voix, la théâtralisation, la reformulation, la mise en abîme, qui ne sont pas propres à la didactique du français langue étrangère et langue seconde, qu'on peut retrouver en didactique du français langue maternelle. Nous-mêmes, avec des collègues Muriel Zoug et Fatima Chenandavin, on a analysé 3 séances en classe internationale, en classe ordinaire et en UPE2A. On a vu qu'on pouvait retrouver une généricité de ces gestes professionnels d'adaptation linguistique dans ces 3 contextes. Donc, pourquoi pas s'appuyer sur des généricités pour faire advenir ces didactiques en classe ordinaire. Donc, ces gestes professionnels d'adaptation linguistique, notamment pour favoriser la compréhension, Muriel Zoug l'a surtout travaillé en classe internationale avec des classes multilingues et multiniveaux, où elle a regardé quels étaient les gestes verbaux et non-verbaux des enseignants pour faciliter la compréhension du vocabulaire. Et elle a repéré certains gestes professionnels spécifiques à la compréhension de l'oral, favoriser la compréhension, capter l'attention d'un élève, définir un mot inconnu, distinguer des mots proches. Cette catégorisation, on peut l'appliquer à toute didactique, vous êtes d'accord? Alors, peut-être des gestes un peu plus spécifiques, parler lentement en séparant les mots ou les syllabes, insister sur des mots-clés, utiliser la gestuelle, montrer, mimer, demander à l'élève s'il a compris, dire ce que l'on fait, répéter, reformuler et demander à un pair de reformuler. Alors, peut-être des gestes un peu plus saillants en didactique du français langue étrangère et seconde, mais qu'on peut retrouver en didactique du français langue maternelle. Alors, on a essayé de voir si ces gestes professionnels d'adaptation linguistique, on pouvait les retrouver de façon un peu fine en classe ordinaire, et pour justement voir comment peut-être mettre de côté cette inclusion des langues et des cultures premières et s'appuyer sur ces outils pour des pratiques efficaces pour des élèves plurilingues en classe ordinaire. Donc, on a regardé plusieurs séances donc, de collègues qui travaillent sur des manuels de lecture et des albums de littérature de jeunesse, où pour ces 2 enseignantes, il a été question du rappel de récits. Pour ces 2 enseignantes, il a été question de parler d'un nouvel épisode. On a filmé donc, ces séances de lecture et on s'est entretenu avec les enseignantes pour mettre en perspective en fait, l'analyse qu'on avait déjà réalisée de ces pratiques et le point de vue de l'enseignante, afin de mieux interpréter aussi quand même les interactions qui avaient lieu en classe. Ce qu'on voit, c'est que finalement, ces enseignantes, elles utilisent ces gestes professionnels d'adaptation linguistique relatifs à la compréhension de l'oral qu'on peut trouver en classe internationale, donc en didactique des langues, spécifiquement pour des élèves plurilingues. Elles généralisent ces gestes pour toute la classe, hein, pour des questions de différenciation, de temps, etc. Mais spécifiquement pour ces élèves, elles vont utiliser ces gestes-là. Elles ne demandent pas à un pair de traduire, elles ne font pas appel à la traduction, elles ne font pas d'analogie avec une autre langue, mais c'est normal, c'est en relation avec leur formation. Hein. Elles n'ont pas eu de formation spécifique sur la didactique du plurilinguisme, donc elles font comme elles peuvent, hein, concrètement. Mais finalement, on voit très bien qu'elles ont recours à des approches multimodales et plurisémiotiques. Donc, elles vont, je vais donner des exemples concrets. Pour Caroline, elle va à la fois, donc elle s'adresse à un élève allophone, elle va dessiner le ballon de rugby au tableau, hein. Elle va faire un geste, donc l'élève allophone essaie de lire le mot ballon, elle va faire un geste pour expliquer que le ballon de rugby est ovale. Donc, elle a recours à cette multimodalité. Au niveau de la prosodie, elle va insister sur « ballon » parce que l'élève n'arrive pas à prononcer le terme « ballon » comme il faut. Elle va aussi demander, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de mimer l'action de filer pour être certaine que tout le monde a bien compris. Donc, toujours être dans cette tension entre collectif et individuel spécifiquement pour les élèves plurilingues. Un autre exemple, on est avec Sarah là sur un rappel de récit, et donc elle va afficher les images des personnages dans le désordre, ce qui permet aux élèves de visualiser l'ordre d'apparition des élèves. Elle va lire un extrait et va demander aux élèves de désigner l'animal. Elle va structurer dans l'espace les réponses des élèves. Elle va faire correspondre les personnages et les extraits, hein, avec cette notion de colonne qui est assez intéressante. Je ne pense pas qu'on y voit assez clair. Ouais. Au niveau de la parole, de la même façon, elle va revenir sur les mots nouveaux en insistant sur certains sons. Et lors des séances précédentes, elle a beaucoup insisté sur les images et sur la façon de nommer ces images pour être certaine que les élèves allophones en particulier et alloglottes avaient une bonne représentation mentale de ces images. Je crois que je vais arrêter là. Un dernier exemple pour cette enseignante. Elle est donc sur un nouvel épisode où elle demande aux élèves, classiquement, qu'est-ce qu'on voit sur cette image. Elle veut travailler sur ces mots nouveaux, donc dragon, bouton, bulle, nuage. Donc, à la fois, elle a cette affiche, elle dessine en même temps, puisqu'il y a une confusion. Elle dit aux élèves, comment on sait qu'elle rêve, en fait. Alors, un élève dit, parce qu'il y a le truc comme ça, il y a le dragon, il fait des gestes lui-même pour désigner la bulle. Donc là, il s'agit que d'élèves alloglottes, surtout, quelques élèves allophones. On sait que c'est un rêve parce qu'on voit le petit nuage comme ça. Donc elle le dessine en même temps et elle le montre. Hein, et elle insiste aussi sur le terme nuage. On se dit forcément qu'on connaît la bulle, puisqu'ils avaient déjà travaillé sur cette notion de bulle. Déjà, quand on parle, on se dit forcément que ce n'est pas dans l'image, c'est dans un rêve ou c'est la maman qui raconte, etc. Bon, en conclusion, très rapide, l'inclusion langagière des langues et des cultures des élèves est un véritable atout. Elle peut se réaliser en classe, en dehors de la classe, hein, comme outil d'évaluation, de prévention, de remédiation, etc. Dans le passage de la langue familiale, mais plutôt des langues du répertoire langagier de l'élève vers la langue de scolarisation. Mais on voit aussi qu'on peut utiliser, hein, à l'aune des exemples que je vous ai passés, d'autres moyens issus de l'interdidacticité, de l'approche multimodale, plurisémiotique et de ces fameux gestes professionnels d'adaptation linguistique. Merci de votre attention.